arriver à comprendre?
Oh, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps. Donnez-moi la force de comprendre,
car ces visions me servent. Avec Martin Carly, dans la catégorie « Aider la nature au quotidien
oui. »,
t'as trois sujets là-dessus.
Exactement. Ouais. Des petites choses, là. Donc, des choses qu'on fait dans la vie de tous les jours, puis on se dit, est-ce que ça a un impact ou pas? Ça devient difficile, là, honnêtement, de mesurer l'impact de tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours sur la planète. Puis là, on a parlé tantôt en long et en large de cet hiver-là qui est atypique. Mais on dirait qu'à chaque année, on dit l'hiver est atypique ou l'été vient trop tard ou à chaque année, il y a ce genre de commentaires-là. Donc, trois sujets comme ça en vrac qui sont pas très longs, mais qui illustrent quand même certains impacts. Là.
Entre autres, les crevettes
oui.
et le homard
oui.
moins en manger.
Oui, peut-être, parce que justement, des chercheurs ont établi l'impact au niveau des changements climatiques de ce type de pêche-là. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les bateaux de pêcheurs ramassent de plus en plus de crevettes et de homards parce qu'il y a une demande de plus en plus grande à l'échelle planétaire pour manger de ces fruits de mer-là qui sont très prisés, bien entendu. On comprend, pour toutes les bonnes raisons. Là, c'est des fruits de mer qui goûtent très bon, qui sont... qui amène une petite touche de luxe quand même dans nos repas. Là. Il y a les homards qui vont bientôt arriver sur la table là, dans le bout de la fête des mers et tout ça. Donc, c'est des choses qu'on aime beaucoup. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'émission de gaz carbonique, donc c'est un des gaz à effet de serre, bien entendu, l'émission de gaz carbonique par ces bateaux de pêcheurs-là, donc pour les crevettes et les homards, ont augmenté de 28 % entre 90 et 2011. Donc, en 20 ans, 28 % d'augmentation au niveau des émissions de gaz à effet de serre par ces bateaux de pêcheurs-là. Ce qui est plus alarmant qu'on pense, parce qu'il faut savoir que pendant cette période de 20 ans-là, les bateaux sont devenus de plus en plus efficaces au niveau énergétique et ils ont été capables aussi de couvrir des distances plus courtes. Donc, le fait que ça augmente autant, ça cache le fait qu'il y a vraiment eu une augmentation énorme de ce type d'activité de pêche-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les émissions supplémentaires de gaz à effet de serre dans ce domaine-là dépassent les gains qu'on a fait au niveau de l'efficacité énergétique, au niveau de la machinerie et tout. Et pourquoi? Ben, il faut savoir que lorsqu'on, par exemple, on pêche la crevette, on doit tirer des filets dans l'eau.
Oui.
Ben, tirer ces filets-là dans l'eau, il y a beaucoup de traînée, ça ralentit beaucoup le bateau, ça diminue sa vitesse, ça lui demande plus d'énergie pour se déplacer à la surface de l'eau. Donc, ça consomme plus de carburant, tout simplement. Et lorsqu'on parle de la pêche au homard, par exemple, ben, ça prend beaucoup d'énergie pour aller placer les pièges au fond de l'eau, les retirer à l'occasion pour voir s'il y a quelque chose qui a été attrapé dans le piège, puis les redescendre et les remonter pour les vider avant de les redescendre. Donc, c'est beaucoup d'énergie, ça, de faire passer un piège au travers d'une grande quantité d'eau comme ça. Ça tire, ça
oui, ça ralentit. Ça fonctionne pas sur le pouvoir de l'air.
C'est pas facile, exactement. Donc, il faut savoir que la demande pour ces crustacés-là a monté de 60 % depuis 1990. Donc, on veut de plus en plus en manger. Et la pêche aux crustacés représente 22 % des émissions de gaz carbonique de la pêche au total, alors que le tonnage des crustacés, c'est juste 6 % de tout ce qui est pêché dans l'océan. Donc, il y a vraiment une disproportion entre ce que ça envoie dans l'atmosphère et la quantité qui a été recueillie, ramassée dans l'océan, effectivement. Donc, évidemment, on ne dit pas qu'il ne faudrait pas en manger du tout. Au contraire, il faut apprécier ça parce que c'est quand même une ressource qui est intéressante. Et là, juste pour, je vous disais tantôt, des fois, on ne voit pas qu'est-ce qui est pire par rapport à quoi. Il faut quand même se dire que l'empreinte au carbone de la pêche au homard et à la crevette est pas mal plus petite que l'empreinte au carbone de la production de bœuf ou d'agneau, par exemple. Donc, le fait de manger de la viande, ça coûte plus cher au niveau de l'impact sur l'environnement que le fait de manger des crustacés, des fruits de mer. Donc, il y a quand même faut mettre ça dans une échelle, là, si on veut. Là.
Mais là, il y a des gens qui vont dire l'aquaculture, c'est moins grave, c'est moins endommageable, alors que, environnementalement parlant, là, les fermes d'aquaculture... là. Ben, et il va dire l'affaire, s'il y a de quoi qui laisse une trace à l'environnement, c'est bel et bien ça. Là.
Ben, en fait, ce que ça illustre surtout, c'est que il faut toujours considérer quoi que ce soit selon son cycle de vie complet. Donc, on va le chercher jusqu'à ce qu'on l'élimine à la fin, que ce soit un objet fabriqué, que ce soit quelque chose qu'on mange ou ainsi de suite. Donc, il faut tout considérer ça. C'est pour ça que souvent, lorsqu'on parle de la production de viande bovine, ben il faut aussi considérer la quantité de céréales qu'on donne aux vaches et ainsi de suite. Là. Donc, faut tout considérer ça. Question d'équilibre, là, si on veut juste, quand on continue de manger des fruits de mer et des poissons, mais peut-être diminuer un petit peu notre impact sur l'environnement, environnement, les poissons qu'on dit pélagiques, donc les poissons qui sont plus près de la surface de l'eau, qui sont moins proches du fond de l'eau, là, comme les sardines, les harengs et les anchois, ce sont les choix idéaux. Puis là, je te vois la bête, là, ça serait peut-être...
pas les meilleurs, par contre, soyons ben, honnêtes.
Moi, j'aime tout ça, moi, mais bon...
Bravo pour toi.
Je suis peut-être seul, hein? à faire ma part dans ce domaine-là. Mais voilà, quand même un petit clin d'œil ici là sur la pêche, par exemple. Mais on a une nouvelle qui est peut-être plus intéressante parce qu'on
a mangé du chocolat. Ben ça, oui, c'est bon. Non?
Exactement. On vient de passer Pâques. Oui. Donc, si vous avez des enfants comme moi, vous faites sûrement partie de tous ceux qui essaient de faire disparaître en douce certains chocolats en trop.
On mange en hypocrite, quoi.
Peut-être pas, mais peut-être en cacher quelques-uns en espérant que les enfants oublient. Mais on dit souvent, ah oui, mais moi j'aime ça manger du chocolat qui est certifié,
ouais,
éco-responsable, équitable, et ainsi de suite. Ben, peut-être que vous donnez un meilleur coup de main à la nature que vous pensez en posant ce geste-là. Pourquoi? Parce qu'au départ, le but là, de certifier des chocolats comme étant éco-responsables ou étant équitables, et ainsi de suite, le but, c'est de permettre à des petits producteurs de survivre et d'avoir un salaire décent face à des multinationales, face à des très grosses compagnies qui produisent le même produit, donc qui exploitent aussi le cacao. Mais ce que vous savez, peut-être pas, c'est que l'effet secondaire de tout ça, c'est que en faisant ces choix-là, donc de chocolat de plus grande qualité, qui sont certifiés par différents organismes, ben on donne un coup de main à la biodiversité qu'on retrouve dans la nature. Pourquoi? Mm-hmm. Parce que dans les plantations traditionnelles de cacao, bien, il n'y a pas juste des cacaoyers, là. Il n'y a pas juste l'arbre qui produit les fèves qui vont nous permettre d'avoir le cacao. Il y a aussi des arbres plus grands qui font de l'ombre à ces petits cacaoyers, ce qui leur donne un coup de main, mais ce qui va aussi attirer un paquet d'êtres vivants dans la plantation, notamment des insectes, des pollinisateurs, des oiseaux qui viennent les manger, des mammifères et ainsi de suite. Donc, on est en train de faire la promotion d'une biodiversité dans une espèce de forêt tampon, si on veut, là.
Ça me fait penser à de la permaculture, ce que tu racontes, là. Je sais pas si tu connais le principe de la permaculture.
Je suis moins familier avec
ça. C'est une agriculture où tu te sers finalement chaque... Au lieu d'avoir des grands rangs de carottes.
Oui.
Des grands rangs de patates, puis des affaires comme ça. Tu vas utiliser des plantes qui se servent entre elles pour favoriser la biodiversité.
Exactement.
Donc, exemple, je sais pas, moi, tu sais, comme tu viens de faire référence, tu as les cacaoyers, mais tu as certains, ils ont besoin d'ombre. Mais là, on fait pousser un autre type d'arbre qui fait pousser d'autres fruits, qui vont amener d'autres sortes d'insectes et tout ça. C'est le principe de la permaculture.
Bon, ben, exactement. Donc, là, on peut dire que là, on a une application très, très précise de ça au niveau des plantations traditionnelles de cacao. Il faut savoir, par contre, que c'est un argument qui vient se buter à l'argument de la production à tout prix, là. Donc, les entreprises qui veulent produire le plus de cacao possible vont dire, ben, enlève-moi toutes les autres plantes de la plantation, on veut juste des cacao, on veut maximiser le pouce carré sur le terrain pour en avoir le plus possible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là qui produisent avec ce type-là, avec d'autres types d'arbres et donc de faire la promotion de la biodiversité, ont besoin d'être supportés. C'est pourquoi, lorsqu'ils reçoivent des subventions ou des primes par des organismes qui vont leur donner une certification, ça leur donne non seulement un salaire plus décent, mais ça permet de maintenir une combinaison d'arbres comme ça. Et justement, des chercheurs, je termine là-dessus, ont déterminé que avec 140 arbres de plus grande taille par hectare sur une plantation, on a un rendement optimal. Et en plus, on a même des espèces qu'on a découvert dans ces plantations-là. Imagine, il y a certaines espèces d'oiseaux qu'on a découvert dans des plantations de cacao. Donc, c'est vraiment très important pour la nature.
Et en une minute, tu nous disais tout à l'heure, on laisse pousser le gazon, c'est bon pour les abeilles?
Oui, absolument. Des chercheurs ont voulu voir l'impact de la fréquence de la tonte du gazon sur la quantité et la diversité des espèces d'abeilles dans ces pelouses-là. Alors, ils ont pris des propriétés dans la région de Springfield au Massachusetts, aux États-Unis. Donc,
c'est une
banlieue. Et ils ont comparé la quantité d'abeilles, mais aussi la diversité d'espèces d'abeilles chez les pelouses au niveau des pelouses qui étaient tondues à chaque semaine, celles qui étaient tondues à toutes les deux semaines, celles qui étaient tondues à toutes les trois semaines. Et ils ont fait ça pendant deux étés consécutifs. Et ils ont installé un peu partout des pièges pour les abeilles à proximité des fleurs pour pouvoir les attraper puis après ça les étudier. Eh bien, je vous le donne en vrac, l'idéal, c'est de tondre sa pelouse à toutes les deux semaines. Si on la tond trop souvent, donc une fois par semaine, eh bien, les fleurs n'ont pas le temps de pousser assez vite et ça attire moins les abeilles. Par contre, l'opposé pas bon non plus. Si on la laisse pousser trop longtemps, donc par exemple 3 semaines, ben là, l'herbe longue commence à rendre les fleurs plus difficiles d'accès pour les insectes pollinisateurs. Et à ce moment-là, ben, ils trouvent votre pelouse moins intéressante. Donc 2 semaines, c'est l'optimal. On a recensé, imagine, en 2 semaines, lorsqu'on tondait la pelouse aux 2 semaines, pardon, le quart des espèces d'abeilles du Massachusetts a été recensé sur ces pelouses-là qui n'étaient tondues qu'aux 2 semaines. Donc c'était vraiment l'idéal. Et ça
en période très sèche de l'été, 2 semaines, c'est pas exagéré.
Ben non, mais honnêtement, on est d'accord avec ça. Ça illustre surtout aussi que des environnements urbains pour des insectes pollinisateurs comme les abeilles, ça peut être de bons environnements s'ils sont gérés convenablement. Puis une recherche comme ça, ça nous permet de mieux comprendre quoi faire avec notre pelouse. Fait que pourquoi pas, hein? Une fin de semaine sur deux, un break. Hein?
Ça va te donner le temps de venir faire la mienne, puis après ça, tu feras la tienne la semaine d'après.
Oh, ça peut être l'inverse aussi.
Non.
Ouais, merci. Ben, j'ai même pas de pelouse. T'aurais pu dire oui et t'en tirer.
11h34. Merci beaucoup, Martin. À la semaine prochaine.
Salut.